La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Enquête de sens. Ce soir, c'est Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Qui dit septembre dit rentrée scolaire, bien évidemment, et la nouveauté de cette rentrée, c'est le cours de philosophie et citoyenneté. Il sera mis en place dès le mois d'octobre dans l'enseignement primaire officiel et c'est vous, parents, enfants, qui allez devoir faire un choix, une heure de philo et citoyenneté plus une heure de morale ou religion ou directement deux heures de philo et citoyenneté. Alors pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, j'ai le plaisir également de recevoir Marcel Bullens. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller pédagogique et directeur du service enseignement de la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve. Et dans ce cadre, vous pourrez nous parler de la mise en place concrète de ce cours par les pouvoirs organisateurs. Une mise en place pas facile d'ailleurs, vous nous en parlerez. Et vous faisiez également partie du groupe de travail qui a rédigé le référentiel de ce cours de philosophie et citoyenneté, ce qui nous permettra de parler aussi du contenu de ce cours. Alors je précise tout de suite que vous parlez en votre nom propre et donc à titre personnel et pas au nom de votre employeur. Alors, Monsieur Demotte, ce cours de philosophie et citoyenneté, on peut dire qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi est-ce que c'était essentiel pour vous de mettre ce cours en place ?
Bon, je crois qu'il fera encore couler beaucoup d'encre. Et c'est d'ailleurs une excellente chose. Si ce cours avait été pris dans la parfaite indifférence, ça aurait été interpellant.
Alors,
d'abord, c'est une demande qui a été portée par de nombreux citoyens, des hommes et des femmes de différentes convictions, mais qui partaient quand même d'un point commun, à voir que il manque quelque chose dans la manière dont l'enseignement prodigue aujourd'hui les valeurs. Alors, je dis pas que l'enseignement doit se substituer à l'éducation de manière générale. Et l'éducation citoyenne, l'éducation de la philosophie, le vivre ensemble, c'est pas seulement l'école. Mais dans l'enceinte de l'école, il manquait quelque chose. Alors il y a eu des essais, des personnes qui proposaient des grilles de cours ou simplement le principe. Et ça a été comme ça dans les airs, sans être concrétisé. Alors ce qui a changé, c'est que pour la première fois, les formations politiques se sont mises d'accord par un accord de gouvernement sur la mise en place d'un cours de citoyenneté et de philosophie et le faisant en substitution d'une des deux heures de religion morale.
Avec évidemment une grosse différence, c'est un cours qui rassemble, c'est un cours où tous les élèves sont ensemble, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui justement en religion ou en morale.
Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, moi je pense que on ne doit pas faire de prosélytisme pour défendre le cours de citoyenneté et de philosophie. Quand aujourd'hui on dit profiter de cette opportunité pour faire deux heures de cette nature, c'est pas un engagement philosophique, dogmatique, à l'exclusion des autres. C'est justement un rassemblement. Alors, et un rassemblement d'une nature autre que l'œcuménisme. Ou que le dialogue interreligieux. Donc souvent on dit, mais permettez aux uns et aux autres tout simplement de confronter leurs convictions tout en ayant les bases convictionnelles. Alors c'est pas ça qu'on a voulu faire. On a voulu développer un esprit qui est celui du dialogue constant, en ce compris d'ailleurs par rapport aux gens qui ne sont pas inscrits dans des processus d'apprentissage religieux, qui n'ont pas de conviction religieuse. C'est le dialogue combiné également au métissage des pensées. Parce que finalement, c'est bien ça. Ne pas vivre chacun son expérience de son côté et de temps en temps les confronter, comme on le fait dans des symposiums, dans des moments de communion, pour utiliser un terme connoté, ou de réunion des opinions divergentes. Non, c'est entrer dans une logique où on accepte d'essayer de dépasser un peu son propre point de vue pour comprendre des gens qui sont aux antipodes et surtout, finalement, ce qui est le sel de l'humanité, de l'humanisme contemporain, c'est-à-dire l'évolution, comme un peu la géologie des faits d'histoire, la réinterprétation de ces faits à la lumière d'une connaissance qui n'est à ce stade pas encore prodiguée dans les modes traditionnels d'enseignement.
Marcel Bullens, vous qui êtes en contact avec des parents, avec des enfants aussi dans les écoles, est-ce que vous avez l'impression que ce cours répondait vraiment à une demande des parents notamment ?
Dans certaines de nos écoles, tout à fait. Au travers des conseils de participation, ça fait déjà, je dirais, au moins 12 ans que des parents ont montrer de l'intérêt pour rassembler les enfants et les ouvrir, je vais dire, finalement, à beaucoup plus que ce que pouvait proposer un cours convictionnel. Entre autres, dans une de nos écoles, ça a été même très loin, puisque un sondage avait montré que près des deux tiers des parents étaient favorables, déjà il y a 12 ans, à ce que leurs enfants suivent plutôt un cours où tous seraient rassemblés et où ils auraient accès, effectivement, comme le disait M. Demotte, au vécu des autres, aux expériences, aux pratiques des autres. Voilà.
Alors, on va justement parler un peu du contenu du cours. Donc, le référentiel a été élaboré par un groupe de travail composé de différents membres. Donc, on avait des professeurs d'université, des représentants des pouvoirs organisateurs, des enseignants. Et donc, toutes ces personnes se sont mises autour de la table. On a un référentiel qui a été conçu en quatre axes. Alors, je vais donner les quatre axes, même si ça peut paraître un peu flou jusqu'en les entend comme ça. Mais donc, le premier, construire une pensée autonome et critique. Deuxième, se connaître soi-même et s'ouvrir à l'autre. Troisième, construire la citoyenneté dans l'égalité en droit et en dignité. Et quatrième, s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. Alors, Monsieur le Ministre, c'est un programme qui paraît quand même fort ambitieux.
Oui, et en même temps, il est essentiel. Donc, on n'est pas en train de disperser ce référentiel sur des thématiques qui sont exemptes de liens directs avec la vie quotidienne. Alors, la question un peu bateau aujourd'hui du vivre ensemble est à ce titre intéressante. Le vivre ensemble, c'est quoi ? Est-ce que c'est le concept classique du vivre ensemble, chacun de son côté, sans trop s'ennuyer ? Alors, avec le terme qu'on utilise souvent, la tolérance. Alors, la tolérance est pour moi déjà un mot, c'est un magnifique mot, mais c'est aussi un mot ambigu. Parce que dire que je tolère l'autre, c'est pas un compliment. C'est-à-dire, tu peux venir à ma table, tu peux pas penser comme je pense, mais je te tolère à mes côtés. Moi, je pense qu'il y a autre chose à faire, c'est à comprendre mieux, c'est à dépasser les différences. J'ai utilisé tout à l'heure le terme métissage à dessein, parce que aujourd'hui, on est de plus en plus, et ça devient presque une idéologie, mais je veux dire une idéologie extrêmement sournoise, diffusée par nos médias sans qu'ils s'en rendent compte, parfois par nos modes de comportement. Cette idéologie, c'est le choc des civilisations. En clair, on est différent, et c'est une fatalité d'être différent, et donc on peut essayer de cohabiter, on peut essayer de se comprendre, mais on est quand même différent. Sous-entendu, quand il y a des différences, il y a une hiérarchie. Il y a une civilisation plus brutale que l'autre. Il y a un ordre qui est plus logique que l'autre. Il y a le blanc, il y a le noir. Le gris n'existe pas beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle des gens comme Samuel Huntington, qui sont les pères de cette doctrine, s'en sont servis aussi pour des raisons évidente, divisé pour régner, dit-on, ben là il y a une forme d'hégémonisme civilisationnel qui se traduit. Et donc comment est-ce qu'on peut déconstruire ces modèles qui ne sont pas toujours conscients, ils peuvent être entrés dans les habitudes d'analyse, ça peut apparaître comme des évidences, comme le marché libre forcément crée du bien-être pour tous, donc des préjugés. Comment est-ce qu'on peut déconstruire ça et rapporter les choses à de la nuance, et c'est exactement ça le cœur du cœur de ces cours.
Oui, Marcel Bullens, vous avez participé à ce groupe de travail. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un mot vraiment sur le contenu, sur ce qui vous a guidé dans ce groupe de travail et dans la constitution de ce cours, on va dire ?
Bon, je dirais que pour répondre, que ce cours, c'est un être et construire ensemble, qui s'appuie sur la philosophie et la citoyenneté. Alors, philosophie dont l'objet est la construction d'une pensée autonome et critique, on l'a dit.
C'est vrai que c'est important de cibler aussi. Oui, c'est vrai que c'est important de parler de cet aspect philosophie aussi, parce qu'on parle beaucoup de cours de citoyenneté. On entend beaucoup dans les médias ces derniers temps.
Tout à fait.
On axe surtout la citoyenneté, mais c'est important de parler aussi de philosophie.
Effectivement, donc la philosophie, c'est d'abord un objet, comme on l'a dit, la construction d'une pensée autonome et critique, et la connaissance de soi et des autres. Mais c'est aussi un contenu. C'est toutes les questions qu'on peut avoir sur la réalité quotidienne. Et alors, c'est surtout une méthode, c'est la recherche de l'exactitude de la pensée. Et ça, c'est un travail, en tout cas, que ce cours propose de faire. La deuxième partie, la citoyenneté, c'est découvrir plutôt la citoyenneté au travers de sa dimension juridique, donc les droits civils, les droits fondamentaux, mais également les responsabilités, les devoirs que la jouissance de ces droits entraîne. Une dimension identitaire, ce qui nous fonde avec d'autres. Une dimension critique par l'examen du bien fondé de nos savoirs à la fois personnels et collectifs. Et enfin, pragmatique, donc par l'engagement dans la vie sociale et politique, dans l'espace démocratique. Donc pratiquement, vous l'aurez compris, ce cours sera un cours qui va faire une grande place à la parole, qui va donner une grande place à la parole. Une parole, bien entendu, qui va être organisée dans des cadres démocratiques et aussi pour laquelle une éthique de la communication sera mise en place. Alors, les élèves y aborderont des questions à portée philosophique, des questions d'ordre éthique, d'ordre épistémologique, d'ordre politique, d'ordre esthétique, voire d'ordre métaphysique, et également des questions, je dirais, d'actualité vive.
Alors, on le voit, c'est un beau programme, et on l'a déjà dit, un programme ambitieux. Or, pour le moment, il faut le faire en une heure, voire deux heures pour ceux qui choisiront ça, puisque effectivement, les parents là vont devoir faire un choix avant le 15 septembre. Ils vont recevoir un formulaire et devront dire s'ils veulent deux heures de philosophie et citoyenneté ou une heure de philosophie et citoyenneté et garder une heure de religion ou morale. Alors, vous, Monsieur Demotte, à titre personnel, vous êtes vraiment engagé pour les deux heures, mais c'est vraiment un titre personnel parce que le gouvernement, lui, ne suit pas cette ligne. Pourquoi est-ce que ça vous semble essentiel de vous engager sur les deux heures ?
Bon, d'abord, en tant que chef de gouvernement, je suis évidemment celui qui doit appliquer les décisions communes de la majorité. Et je le fais. Maintenant, je peux aussi, dans le même temps, exprimer le sens que je pense être celui que nous devons emprunter à l'avenir, pour lequel d'ailleurs je me suis toujours battu, qui est de passer à deux heures de citoyenneté et philosophie en lieu et place des cours aujourd'hui prodigués en religion et en morale. Alors, clairement, je le fais parce que je suis convaincu qu'avoir dans des cours en commun, des cours où l'on partage toute cette pensée critique, cette approche du monde, cet apprentissage de la citoyenneté active, impliquée, eh bien, est la clé d'un certain nombre de problèmes. Alors, j'entends que d'aucuns n'ont pas la même lecture. Je les respecte dans leurs convictions. Et le respect est important, mais quand je lis récemment encore le patron du réseau catholique, le CEGEC, dire que il fait le choix de pas effectivement aller dans le même sens des cours de philosophie et de citoyenneté, parce que on doit conjuguer une tradition éducative, je le cite, qui se rattache au christianisme et les valeurs. Moi, je partage pas ce point de vue. J'ai évidemment une culture qui me permet d'appréhender les qualités, les défauts aussi de chacune des religions, parce que j'ai un intérêt pour cet apprentissage, mais je ne pense pas que le fondement ce soit au départ une religion qui inspire le processus éducatif. Donc, pour cela, je reste encore convaincu aujourd'hui que les 2 heures, eh bien, on a pour nos enfants, pour notre monde et notre société, intérêt à ce qu'elles soient en éducation et en citoyenneté. Alors, hors de l'école, que l'on ait des convictions religieuses, je ne vais pas dire peu me chaud, ce qui apparaîtrait comme un désintérêt, je pense qu'il est bon que chacun ait ses propres convictions ou non religieuses. On peut être athée, agnostique, et tout ça habite effectivement la diversité de la société. Mais dans l'école, ces lieux de rassemblement sont importants parce qu'on n'est pas dans des tiroirs différents et de temps en temps on fait un petit brassin là. On est vraiment dans une démarche où on associe à la pensée moderne, à la pensée complexe du monde, des enfants, des jeunes, qui ont besoin précisément de ces échanges. Mais pas seulement sous l'angle de la comparaison d'approches religieuses aussi, avec ce dimensionnement beaucoup plus pluriel, qui est celui de la philosophie. Je rappelle d'ailleurs que quand émerge la philosophie dans nos sociétés, on fait souvent référence à la philosophie grecque par exemple, c'est parce qu'on recherche quelque part un pendant de ce que les prêtres et la religion apportent. Donc c'est une réflexion sur la sagesse qui n'est pas nécessairement dégagée du transcendant. Il y a des philosophes qui ne nient pas le transcendant et l'interprètent, mais qui est différent d'une structuration, qu'elle soit ecclésiale ou religieuse.
Alors, vous parliez, je voudrais quand même rebondir là-dessus, parce que vous parliez du réseau catholique, donc de l'enseignement libre confessionnel. On sait que le référentiel aujourd'hui de ce cours de philosophie et citoyenneté doit être appliqué partout, sauf qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux réseaux, puisque dans l'enseignement officiel, il y a un cours spécifique, mais dans l'enseignement libre confessionnel, la matière va être diluée dans tous les cours. Or, il y a quand même eu un avis du Conseil d'État le 7 septembre 2015, il y a un an, qui disait que compte tenu de l'importance des principes et de l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne se justifie pas que les élèves fréquentant les établissements libres soient privés des cours de philosophie et citoyenneté. Alors pourquoi est-ce qu'au final, les enfants qui sont inscrits dans le libre sont quand même privés de ce cours ?
Donc il y a évidemment cette liberté pédagogique qui est également une des garanties que notre cours constitutionnel veille à appliquer et qui fait que le réseau catholique a décidé de continuer à travailler sur un modèle qui est celui de la diffusion dans différentes disciplines de ces valeurs sans l'inscrire dans un cours en particulier, étant donné que ontologiquement, le libre confessionnel existe parce que précisément il porte aussi cette valeur de la conviction qui est à l'origine de sa création. Et donc on peut comprendre cette démarche, je ne la partage pas, mais pour autant elle est fondée sur, je vais dire, ce qui est au départ de l'initiative éducative de communautés religieuses.
Oui, mais c'est vrai qu'on voit, du coup, je le disais, Marcel Bullens, vous étiez dans ce groupe de travail, mais vous êtes surtout directeur du service enseignement de la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve. Et là, vous devez vous occuper de faire notamment les horaires de cette rentrée. Et vous me disiez que c'était juste un casse-tête, pas possible, parce que vous devez, vous, contrairement au libre qui fait un petit peu ce qu'il veut avec ce référentiel, vous devez faire un cours d'une heure ou de 2 heures, tout en continuant à faire des cours de religion. Vous vous en sortez ?
Ben, disons que pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres précis d'inscription des enfants dans chacun des cours. Donc, on n'a pu fonctionner qu'avec des modèles sur base, des participations des années précédentes. Mais c'est clair que à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si pour le 1er octobre, on arrivera à organiser les horaires pour tous nos enseignants. Parce qu'il faut savoir qu'il faut prendre en considération les horaires d'éducation physique, les horaires de natation, les horaires de cours de langue, les horaires, une heure maintenant de cours philosophiques et une heure de cours de philo-citoyenneté. En sachant aussi que il faut prendre parfois, dans beaucoup de pouvoirs organisateurs, aussi des horaires de bus entre les différentes écoles en considération. Donc c'est un vrai casse-tête. Alors c'était déjà pas facile avant. Maintenant on se demande comment on va faire. Et
Est-ce que vous reprochez une certaine inégalité entre les réseaux ou la manière dont c'est organisé?
Disons que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur finalement, avant même l'entame des réflexions sur le contenu de ce cours, sur le fait qu'un réseau ait obtenu de ne pas devoir bouger à la forme. Et donc, bien sûr, je ne sais pas si ça répond vraiment à la demande initiale qui était finalement un projet très ambitieux. Et on a un peu le sentiment que, en tout cas pour l'officiel, l'ambition a été sacrifiée au bénéfice de l'emploi des maîtres de cours philosophiques.
Parce que c'est vrai qu'il y a cette donne-là aussi à prendre en compte, parce qu'au niveau des personnes qui peuvent donner ce cours, finalement, il a été décidé donc, par le gouvernement de la Fédération à l'Uni-Bruxelles de ne pas donner de priorité. Donc, en gros, les professeurs de morale et les professeurs de religion peuvent donner ce cours à condition de suivre une formation en neutralité, en tout cas dans un premier temps, jusqu'en 2020, c'est un régime transitoire. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même, Monsieur Demotte, qu'il aurait dû y avoir peut-être une priorité au moins à certains profs qui avaient déjà une formation en philosophie, peut-être les profs de morale ou ceux qui avaient suivi des formations en animation philosophique, est-ce qu'il n'aurait pas dû quand même y avoir une priorité?
Non, je lis deux réflexions de nature différente. La première, c'est, et votre question partait de là, est-ce que les réseaux libres et officiels ne sont finalement pas aujourd'hui en position de concurrence inégalitaire puisque l'un doit faire un effort que ne fait pas l'autre? Et là, la réponse est, dans ce que je disais tout à l'heure sur la liberté pédagogique, on applique un même principe de manière différente. Même si, à titre personnel, je répète que moi, je serais vraisemblablement prôné pour l'inscription pure et dure d'un cours de philosophie et de citoyenneté, en ce compris dans le réseau libre.
Oui, c'est vrai que juste aussi une précision, c'est que si on avait opté directement pour les 2 heures, au niveau des horaires, ça aurait facilité les choses quand même, j'imagine. Ça aurait
Alors là,
aidé...
C'est un compromis politique, et donc effectivement, pour utiliser une terminologie qu'on connaît bien dans les milieux qui cherchent effectivement à essayer de développer l'esprit critique, il vaut mieux allumer une petite chandelle que de maudire l'obscurité. Et là, on est effectivement aujourd'hui devant un pas, qui était un pas attendu. Alors on peut dire, on voulait 2 heures, ce qui est mon cas. On n'obtient qu'une heure, mais c'est déjà bien d'avoir obtenu une heure. Donc aujourd'hui, ça implique des contraintes, on en a tous conscience, mais c'est aussi le produit d'une évolution que nous réclamions depuis longtemps. Alors sur la question maintenant autre, c'était celle du statut du personnel, il y a les pouvoirs organisateurs d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les organisations représentatives des travailleurs. Et là, le point d'équilibre était de ne pas toucher à l'emploi, donc ne pas servir de cette réforme pour faire perdre des emplois. Et on a des emplois qui sont des professeurs de morale, d'autres des professeurs de religion, et l'engagement, pas moi qui étais autour de la table, mais j'en suis aujourd'hui le notaire, c'était de préserver l'emploi. Alors pour préserver l'emploi, on a fixé des règles, mais qui finalement sont aussi des règles qui partent, je vais dire, de la reconnaissance factuelle de ce qu'est la formation des professeurs de morale. Si je regarde leur formation, ils ont le titre pédagogique, ils ont la formation en neutralité, et finalement le costume correspond bien à ce que eux ont comme mesure. D'ailleurs, dans les règles transitoires, ceux qui vont devoir faire les efforts d'adaptation, ce sont ceux qui ne correspondent pas à ces critères, notamment sur le plan de la neutralité, la formation à la neutralité qui doit être terminée pour octobre de cette année. Sans ça, on ne peut pas donner ces cours. Et puis, il y a aussi, d'ici quelques années, je crois que c'est début 2020, je n'ai plus la date précise
en tête. Oui, c'est 2020.
Eh bien, 2020, eh bien là, on doit, c'est ça le 1er septembre 2020 exactement, on doit faire en sorte qu'on ait le titre pédagogique, ce qui n'est pas le cas nécessairement, il y en a qui ont ce titre, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas nécessairement du côté des professeurs de religion, et je signalerai quand même aussi que quand on regarde les proportions, c'est un effort considérable, et si on n'est pas à niveau à ce moment-là, évidemment ce sera aussi quelque chose qui va bénéficier aux professeurs de morale. Et je signale quand même, pour ceux qui n'auraient pas été attentifs à ça, que l'inspection,
oui, il y aura une inspection,
va s'exercer, ouais, là-dessus. Ce qui n'était pas le cas, évidemment,
des cours de religion.
Donc, si à un moment donné, il y a un hiatus entre les référentiels, les programmes et le comportement, la manière d'enseigner, le contenu distillé par l'enseignant, l'inspection est là.
D'accord.
Oui,
mais ce qui est quand même difficile, je pense, que ce qui va être difficile, c'est à la fois... Disons, il y a l'organisation, mais il y a aussi le dispositif pédagogique, finalement, puisque il est quasi certain que les 2 heures vont devoir être attribuées à des enseignants différents. Donc, ça veut dire que les enfants auront, en tout cas ceux qui suivront le cours commun, auront un professeur. Ceux qui opteront pour la 2e heure auront probablement un autre professeur, pour des raisons pratiques d'organisation.
Oui, donc il n'y a pas de suivi, il y a un problème vraiment de suivi.
Donc voilà, donc pédagogiquement, c'est difficile. Puis, une chose aussi, c'est que même pour la 1e heure, si on fait un atelier de recherche philosophique en 50 minutes, c'est quand même un peu compliqué. On a le temps de poser la question, mais je ne sais pas si on va avoir le temps d'y répondre.
Oui, donc, ça me fait penser d'ailleurs, cette semaine, voilà. En fait, la FAPEO, donc la Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel, a sorti une campagne pour informer sur le cours et encourager les parents à plutôt opter pour les 2 heures de philosophie et citoyenneté. Et donc, dans cette campagne, il y a un dessin de Vado où on voit la phrase de Descartes « Je pense, donc je suis ». Effectivement, pas facile d'expliquer ça en 1 heure de cours.
Mais non, bien sûr. Et je pense aussi que pour les enseignants, je vais dire, ça va être une véritable difficulté.
Voilà. Oui, donc c'est une difficulté à toute une série de niveaux, pour les enseignants, pour les horaires au niveau pratique,
voilà.
Pour les élèves aussi qui peuvent se sentir un peu perdus entre la 1e heure et la 2e heure.
Oui, et surtout aussi par rapport au nombre d'élèves. Donc pour mener un atelier, disons, intéressant en matière philosophique, il faut quand même un certain nombre d'enfants. Et donc, pour la 1e heure, effectivement, là, on aura une classe complète, donc ça ne posera pas de souci. Pour la 2e heure, on risque d'avoir peu d'enfants, ou en tout cas un nombre d'enfants qui ne permettent pas de développer un travail comme il est proposé, en tout cas, dans l'ambitieux programme de ce cours.
Oui, ça, on le saura seulement quand les parents auront rendu le fameux formulaire, voilà, à rendre pour le 15 septembre.
Je pense effectivement que la cohérence est de passer aux 2 heures. J'ai moi-même plaidé pour les 2 heures. Il peut y avoir aussi un dialogue sur la nature complémentaire de l'une et l'autre heure, ce qui est souhaitable et, je pense, dans les faits, sera observé. Donc, les difficultés d'organisation sont réelles, je ne dément pas, mais les opportunités ne sont pas moindres, parce que je crois aussi que dispenser aujourd'hui ces 2 heures va permettre notamment d'approfondir un certain nombre de choses. Alors, ceux qui, même moins nombreux, seraient dans la 2e heure, si tel était le cas, vont aussi, sinon pas l'opportunité de discuter entre eux dans des groupes, et avoir une faculté d'introspection sur ces matières, qui est aussi un moment important. Donc la réflexion dans des groupes plus étroits peut aussi amener à des remises en cause, ce qui est le but final, essentiel même, de cette démarche.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je pense qu'on pourrait parler encore très longtemps. Et c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi un peu, quelques mots, du pacte d'excellence, mais ce sera pour une autre émission. Je vais quand même vous donner quelques informations. Je vous parlais de cette fameuse campagne de la FAPEO, donc la Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel. Ils ont créé un site qui s'appelle 2 heures c'est mieux, donc 2heurescestmieux.be. Vous pouvez retrouver toute une série d'informations sur ce cours de philosophie et de citoyenneté. Il y a des visuels assez drôles qui ont été faits par Vado. Je rappelle aussi que donc, ce cours va démarrer le 1er octobre dans l'enseignement officiel primaire et qu'il faudra attendre un an de plus dans le secondaire, et qu'on verra concrètement comment ça se met en place. Et on vous souhaite beaucoup de courage, monsieur Bullens, dans les prochaines semaines, je pense, pour les horaires. En tout cas, merci à tous les deux. Merci monsieur Demotte, merci monsieur Bullens, pour d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Bonne soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.